jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Vincent Parisot sur RTL.
Et en premier lieu, dans un instant, un nouveau numéro du grand jury des auditeurs ont la parole. C'est vous, effectivement, qui allez poser les questions que vous souhaitez dialoguer avec une candidate, en l'occurrence, aux élections européennes du 9 juin. Pour ça, le 3210, l'appli RTL pour interroger Manon Aubry. Bonjour Manon Aubry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci dans ce grand jury des auditeurs ont la parole. Vous êtes, je vous le rappelle, tête de liste de la France Insoumise et vous allez donc répondre aux auditeurs d'RTL. Nous sommes avec Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Chef de service étranger, spécialiste des questions européennes. Vous êtes prête à répondre aux auditeurs ?
C'est parti.
À toutes les questions, quelles
qu'elles soient. Toutes les questions, promis, je le jure, j'espère à quelle main.
Voilà, bah, celles que vous voulez, on vous demandera effectivement des réponses claires.
Promis, je vais essayer.
Plus d'auditeurs possibles puissent s'exprimer et vous interroger. Tout de suite, l'actualité, le rappel, c'est avec vous, Céline Landreau.
Et la piste d'une expédition punitive menée et organisée par un père de famille désormais privilégié après la mort de Zakaria, ce jeune de 15 ans, mardi à Romans-sur-Isère. Zakaria qui n'était pas visé par cette expédition punitive, mais qui a été tué d'un coup de couteau après avoir voulu s'interposer. Les Français appelés à s'abstenir de se rendre en Iran, en Israël, au Liban et dans les territoires palestiniens par le ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie française leur demande d'éviter ces voyages et cela à cause du regain de tensions liées notamment aux menaces du guide suprême iranien visant l'État hébreu. Et puis une mission d'information déclenchée par le ministère des Armées, cette fois après le MeToo des armées, vous savez, cette succession de témoignages de femmes militaires ou anciennes militaires qui ont expliqué avoir été victimes de menaces sexistes, d'agressions sexuelles exactement au sein des armées. On vous en a parlé sur RTL. Le temps, Claire Delorme, c'est très agréable d'abord pour cet après-midi.
Absolument, non seulement ça sera calme mais très ensoleillé sur l'ensemble du pays, seul petit bémol vers le sud des côtes bretonnes ou encore vers le pays de la Loire, on pourrait avoir quelques brouillards qui auraient du mal à se dissiper. Partout ailleurs, ça serait une journée vraiment très agréable et des températures en hausse jusqu'à 25 degrés cet après-midi pour la moitié nord, jusqu'à 26 degrés pour la moitié sud. Ça pourrait grimper localement jusqu'à 28-29 degrés en Provence. Pour rentrer dans les détails, nous aurons 22 degrés à Nancy cet après-midi, 24 degrés à Grenoble, 25 degrés à Agen, 26 degrés à Marseille et 20 degrés du côté de Cherbourg.
Et ce week-end ?
Alors ce week-end s'annonce très estival avec encore du soleil dans l'après-midi qui va s'imposer généreusement. Mais après seulement la dissipation des brumes et brouillards matinaux qui vont surtout être localisés sur la moitié nord. Et donc dans l'après-midi, ça sera un plein soleil. Peut-être à l'exception des côtes bretonnes qui elles aussi auront quelques nuages. Quant aux températures, eh bien là on pourrait atteindre jusqu'à 28 degrés pour la moitié nord. L'ambiance sera vraiment estivale et jusqu'à 30 degrés dans le sud. Mais a priori, pas de record à battre mensuellement.
Merci beaucoup Claire Delorme.
C'est une journée à faire un barbecue. Hein.
Absolument. Bon. Ouais.
Et peut-être à manger de la viande, un bon steak, on verra. On verra d'ailleurs si...
Ou une petite salade de tomate.
Oui, ça peut être aussi une petite salade de tomate. Merci, en tout cas, on va se préparer à ce beau week-end ensoleillé. Merci Céline Landreau.
À ce soir.
À ce soir, évidemment. Céline, vous serez là lundi.
Non, lundi en 8. Comme
lundi en 8. Eh bien, profitez-en bien.
Merci.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le grand jury des auditeurs.
Le grand jury des auditeurs avec Manon Aubry, tête de liste donc de la France Insoumise. Vous avez compris le principe. Les auditeurs vont intervenir tout de suite. Les élections européennes le 9 juin, donc dans moins de 2 mois maintenant. Est-ce que vous êtes dans les clous en termes de, j'allais dire, de sondage ou autre, parce que le premier auditeur qui veut intervenir va vous interroger sur ce...
En tout cas, si on prend tous les derniers sondages, on est la seule liste qui progresse, qui soit stagne, soit qui progresse, et qui en tout cas ne perd pas de points. Mmh. Et je pense que c'est la démonstration qu'il y a des millions de gens qui ont envie d'autre chose dans le pays que le duo entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella ou Marine Le Pen, et qui ont envie d'un peu d'air, un peu de souffle, notamment pour agir contre la vie chère, suis sûre. On en parlera.
Ben voilà, et donc on interroge Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Voilà, donc est-ce que vous avez eu déjà un début de réponse de Manon Aubry ?
Salut Manon, alors je vais tutoyer Manon, ça la dérange pas parce qu'on est des camarades.
Bien sûr, allez-y.
Manon, tu dis que les Français ils veulent autre chose que le duel Macron-Bardella, sauf qu'en fait, je trouve que LFI quand même a pris un sacré coup dans les dents dernièrement. Pareil, quand tu vois que les filles se fait traiter de d'antisémites. Enfin, je sais pas, je pense que les filles, on en prend beaucoup dans les dents pour pas grand-chose.
Vous êtes un sympathisant ou un militant vous-même de LFI, Philippe ?
Alors moi, je suis plus à gauche que LFI.
D'accord, ok. Mais enfin, vous là, vous êtes...
Ce qui montre que nous ne sommes pas d'extrême gauche s'il y a des gens plus à gauche.
Un camarade. Donc, voilà, vous avez entendu ces questions que vous a posées Philippe. Vous en avez pris dans les dents dernièrement.
Salut Philippe. C'est vrai que ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a eu une petite stratégie de diabolisation de la France insoumise. Et le fait est que ça n'a pas complètement fonctionné, vu qu'on est en hausse dans les sondages ces dernières semaines, et que je pense que nos messages commencent à porter. Je vais vous prendre quelques exemples précis. Il y a une crise agricole ces derniers mois. On est le seul groupe, je préside au Parlement européen, le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange qui mettent en concurrence nos agriculteurs face à des produits agricoles qui viennent des quatre coins du monde entier, du lait de la Nouvelle-Zélande, de la viande du Brésil. Ce sont des choses qui parlent aux gens de la même mesure. Je vous donne juste un deuxième exemple.
Parce que la question de Philippe, c'était pas celle-là. La question de Philippe, vous en avez pris plein la figure, mais... et notamment sur les questions d'antisémitisme.
Mais vous savez, quand on est de gauche, l'antisémitisme, c'est un sujet suffisamment sérieux pour ne pas inventer des antisémites là où il n'y en a pas. Et notre histoire politique est liée à la lutte contre l'antisémitisme, qui est une question qu'il faut prendre très au sérieux dans notre pays. Et donc, prendre très au sérieux cette question, par ailleurs, qui est un délit, ça veut dire à la fois mettre les moyens pour lutter contre les vrais antisémites et ne pas inventer...
C'est quoi les vrais antisémites ?
Ceux qui...
C'est l'extrême droite ?
Notamment, qui a une histoire qui est issue de l'antisémitisme. Je rappelle que parmi ceux qui ont créé le Front National à l'époque, il y a des héritiers des nazis. Donc oui, les nazis, qui est un mouvement politique qui s'est fondé sur l'antisémitisme. Après, vous savez, l'antisémitisme, malheureusement, ça traverse toutes les couches de la société. C'est une des raisons pour lesquelles il faut prendre au sérieux cette forme de racisme et pouvoir lutter avec les moyens contre.
Philippe, est-ce qu'on a bien répondu aux questions que vous vous posiez ?
Non, ouais. Après, j'aurais juste une petite question encore à poser.
Allez-y, alors, à votre camarade.
Elle parlait des agriculteurs, des contrats de libre-échange, etc. Pour les agriculteurs, il y avait aussi la concurrence déloyale. Alors, je suis routier. Le transport routier, il n'y a jamais autant de boîtes de transport qui ont fermé en 2023. On en prend plein la tête. Sur les routes, il n'y a quasi plus que des pays de l'Est. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que l'Europe comptait faire par rapport à ça, parce que tant qu'il n'y aura pas d'harmonie sociale...
La concurrence déloyale, par exemple, avec les Polonais, hein, j'imagine.
Et ça, c'est... Merci Philippe, parce que c'est un point crucial et un échec crucial de l'Union européenne. Pourquoi il y a aujourd'hui une concurrence déloyale, notamment dans l'emploi des routiers ? C'est à cause d'une directive européenne sur le travail détaché. Concrètement, des entreprises françaises peuvent employer des Polonais, des Roumains, et les faire travailler en France avec les conditions sociales, la protection sociale de leur pays d'origine, notamment dans des pays comme la Pologne ou la Roumanie, où c'est beaucoup plus faible. Donc ça crée de la concurrence vers le bas, et tout le monde est gagnant. Et tout le monde est perdant, pardon. À la fois, les travailleurs ici, les routiers en France, ils sont perdants parce qu'ils font face à une concurrence déloyale. Et même ceux qui sont employés, les routiers roumains par exemple, qui sont employés en France, ils sont perdants parce qu'en Roumanie, ils sont en train d'abaisser encore plus la protection sociale. Donc moi, je me bats contre cette concurrence déloyale à tous les niveaux. Contre cette directive européenne sur le travail détaché, pour moi, tous ceux qui travaillent en France, ils doivent être employés selon les conditions de travail françaises, quelle que soit leur nationalité. Mmh. Et contre la concurrence déloyale qui est causée par les accords de libre-échange. Et c'est un combat fondamental qu'il va falloir mener dans cette campagne.
On va marquer une courte pause. Remercier Philippe.
Merci Philippe.
Pour votre première question, nous serons avec Thierry, avec Baptiste dans un instant, avec Bénédicte Tassard, spécialiste des questions européennes. On vous retrouve Manon Aubry face aux auditeurs d'RTL. Les auditeurs ont la parole. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Le grand jury des auditeurs.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le grand jury des auditeurs.
Avec Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion, Bénédicte Tassard, de rappeler les derniers sondages et de dresser le constat que vous ne faites pas la course à gauche.
Le dernier sondage Toluna, Harris Interactive avec RTL M6 et Challenge, qui a été publié hier. Hein, les écarts s'amenuisent entre la liste du Parti Socialiste de Place Publique, Raphaël Glucksmann, 12%, et celle de la France Insoumise de Manon Aubry, donc de vous, qui gagne un point. Vous gagnez un point par rapport à la semaine dernière. Vous êtes à 9%. 30% pour le Rassemblement National et la liste de la majorité, elle est à 17%.
Voilà, et on rappelle qu'il y a tout en bas de votre liste, en position non éligible. Quelqu'un dont on va parler maintenant, il fait l'objet de la question de Louise.
Bonjour Manon Aubry, j'ai une question pour vous. Jean-Luc Mélenchon est sur votre liste, mais tout en bas. J'imagine que vous ne pouviez pas vous passer de lui, mais il n'est pas un peu encombrant. Merci.
Il n'est pas un peu encombrant, donc demande Louise qui a fait le 32-10 ou qui s'est exprimée sur l'appli RTL. Oui, pourquoi alors cette présence ?
Bonjour Louise, moi je suis assez fière d'avoir Jean-Luc Mélenchon présent sur ma liste parce que c'est celui qui a permis à la gauche de tenir debout. En 2022, il a fait 22% à l'élection présidentielle. Il a ensuite créé la NUPES qui nous a permis d'obtenir 151 députés à l'Assemblée nationale. Et vous savez, y compris vu de ma position de députée européenne, où je vois ce qui se passe dans les autres pays européens, il y a beaucoup de pays qui nous envient et qui aimeraient bien avoir un Jean-Luc Mélenchon qui a fait tenir la gauche debout. Je pense à des pays comme l'Italie, où la gauche est exsangue, par exemple, où l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Après, je crois que j'ai fait aussi la démonstration dans cette campagne que j'avais une voix qui était forte, qui portait, et je suis ravie que Jean-Luc Mélenchon puisse mener aussi la campagne à mes côtés, avec tous les députés à l'Assemblée nationale aussi. On
se donne de la force collective. Est-ce qu'il représente l'avenir de LFI, Jean-Luc Mélenchon ?
D'abord, sur l'avenir de la France insoumise, il a été le premier à le dire de nombreuses reprises. Regardez tous les cadres dirigeants de la France insoumise. Mathilde Panot, présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Manuel Bompard, qui est notre coordinateur national. Moi, qui suis présidente de groupe au Parlement européen. On a tous dans nos 30 ans. Donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit très bien. Avec eux, vous en prenez pour 40 ans. Donc, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, je pense, n'a rien à prouver dans ce qu'il a réussi à construire. Mais... pardon, mais là, il a encore de la force et il est là.
Mais est-ce que votre liste est apaisée au sein même de la liste ? Est-ce qu'il y a des personnes qui... Est-ce que ça frite un petit peu avec Jean-Luc ?
J'aimerais bien.
Non, je vous demande.
Non, je vous rassure, ça ne frite pas. On a une super liste de combattantes et de combattants avec des profils extrêmement diversifiés. Je pense à des gens comme Anthony Smith, qui est un inspecteur du travail, qui avait croisé le fer, notamment avec Elisabeth Borne, qu'il avait suspendu parce qu'il avait osé défendre les droits des travailleurs pendant la crise du Covid. On a des gens qui viennent d'horizons différents. Damien Carême, qui est un député écologiste et qui reste fidèle au programme de la NUPES.
Donc pas de tension, pas de friture sur
la ligne. Non, franchement, désolé de vous décevoir.
Le groupe vit bien, comme on dit dans le football. Une question qui a rapport à l'actualité de ces derniers jours. Actualité assez tragique et dramatique. Bonjour Baptiste.
Oui, bonjour Eric. Bonjour Manon Aubry.
Bonjour Baptiste.
Écoutez, moi je vois tout ce qui se passe en ce moment et je voulais vous demander, quand vous voyez tout ce qui se passe dans notre société, est-ce que vous constatez une islamisation de la société française ? Et si oui, est-ce que vous trouvez ça inquiétant ou est-ce que finalement vous trouvez que ça va dans le sens du temps et que c'est normal ?
Voilà, islamisation de la société française, est-ce que ça vous inquiète ? Vous êtes au courant effectivement des récentes affaires, y compris celle qui est apparue récemment dans ce magasin de chaussures où un gérant d'une société de chaussures a donc demandé à une jeune fille de quitter le magasin parce qu'elle
ne pouvait pas l'embaucher parce qu'elle était voilée.
Je pense qu'il faut être très prudent dans ce qu'on veut dire par islamisation de la société. Il y a des millions de gens dans notre pays qui sont de confession musulmane, comme on a des gens de confession juive ou de confession catholique, qui vivent leur foi, leur religion, dans un cadre qu'organise la société, qui est d'ailleurs le cadre de la laïcité à l'école. Mmh. On dénonce souvent des faits à l'école, mais la réalité, c'est qu'à l'école, par exemple, la loi sur la laïcité est relativement bien appliquée, avec relativement peu d'incidents. Elle est relativement bien comprise, même si elle doit être vue comme une loi qui doit permettre à chacun de croire ou ne pas croire, comme une loi finalement qui garantit la liberté, plutôt que comme une loi coercitive. Mais moi, je refuse qu'on pointe du doigt une religion dans notre société, telle qu'elle soit. Parce que on doit être les héritiers justement de cette société.
Et sans pointer du doigt une religion, est-ce que vous avez le sentiment que ces incidents, qui sont des parfois même des attaques à la laïcité, se multiplient ou non ?
De quoi on parle quand on parle d'incidents ou d'attaques à la laïcité ? Vous voyez, on ne peut pas faire des raccourcis. Il faut être précis de quels incidents on parle. Si vous parlez, l'incident contre la jeune Samara, par exemple, qui s'est déroulée à Montpellier, qui est cette jeune femme adolescente qui a été agressée. Il s'est passé plusieurs choses. À la fois, le parquet, donc la procureure, a précisé qu'il n'y avait pas de motif lié à la religion dans son agression. C'est la procureure qui l'a dit. Et sa mère, à cette jeune femme qui a été agressée, a elle-même dit sur un plateau télé qu'elle refusait l'instrumentalisation de cet événement pour pointer du doigt la religion qui était la sienne, qui est la religion musulmane. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut être prudent quand on parle.
C'est ce qu'on essaye de faire.
Risque,
hein,
c'est précisément de monter les gens les uns contre les autres. Moi, ce que je prône, c'est une société apaisée. C'est une société où on peut tous vivre les uns avec les autres, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos origines, quel que soit notre entourage.
Mais sans mettre les problèmes sous le tapis.
Mais évidemment que non. Mais il faut créer de la mixité sociale.
Alors, exemple, dans un magasin, une jeune femme, si le règlement intérieur prévoit qu'elle ne peut pas être voilée, est-ce que le gérant doit être mis en cause s'il refuse qu'elle soit voilée ?
Il n'y a aucune loi en France qui interdit à une femme de se voiler.
Règlement intérieur du magasin, en l'occurrence, le précise.
Vous voyez, les règles, elles doivent être définies dans un cadre collectif qui est le cadre démocratique de l'État. On a défini des règles dans le cadre public, à l'école, dans les institutions publiques, et ce cadre de nouveau est respecté. Mais je pense qu'il faut faire attention à la fois aux amalgames, à la fois à dresser les uns contre les autres dans notre société. Moi, je vais être la garante, je vous l'accorde, c'est pas facile en ce moment, mais je vais être la garante de cette unité de notre nation. Parce qu'à la fin, ce qui nous fait tenir, c'est précisément le fait d'être français, d'avoir des valeurs communes ou des valeurs européennes, même si vous le voulez. C'est ce qui nous fait tenir. Et en vrai, les vrais problèmes des gens au quotidien, on peut faire un sondage, puisqu'on pourra demander à vos prochains auditeurs, c'est quoi ? C'est l'explosion du coût de la vie, c'est les prix alimentaires qui ont augmenté de 20%, c'est la concurrence déloyale sur notre agriculture et notre industrie, c'est ça les vrais sujets du quotidien. Et là-dessus, pardon, mais ça ne change rien ce que vous portez comme bout de tissu sur la tête.
Allez, on marque une pause.
Dont on devrait parler.
On va parler en tout cas des sujets qui intéressent les auditeurs d'RTL et qui veulent vous interroger. On va les retrouver tout de suite au 3210. Manon Aubry.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le grand jury des auditeurs.
Invité Manon Aubry, tête de liste, la France Insoumise. On poursuit cette émission. Je vous demande, par pitié, des réponses courtes pour qu'on puisse prendre le maximum d'auditeurs. Jean-Pierre, dans une seconde. Mais avant cela, puisque vous êtes là, Bénédicte Tassard, rappelez-nous cette affaire de pacte asile-immigration.
Le pacte asile-immigration qui a été voté au Parlement européen mercredi dernier, avec notamment donc des mesures pour essayer de ralentir la venue des demandeurs d'asile aux frontières extérieures de l'Union européenne avec la création de centres de rétention et un autre traitement des demandes d'asile. Et puis une solidarité entre les pays, avec les pays de première entrée, donc là où les migrants arrivent, vont-ils être répartis sur le reste du territoire européen ? Manon Aubry, vous pouvez rappeler la position.
Vous ne l'avez pas voté.
Non, j'ai voté contre parce que ce n'est pas du tout un pacte qui va ralentir les venues ou je ne sais quoi d'autre. C'est un pacte qui, va criminaliser davantage et renvoyer encore plus de migrants, les mettre en centre de détention comme des enfants, notamment des enfants mineurs. Et deux, non, il n'y a pas de principe de solidarité. Pire encore, les États pourront payer de l'argent pour financer des murs aux frontières de l'Union européenne plutôt que d'avoir un principe de solidarité.
Vous allez nous l'expliquer parce que justement, Jean-Pierre...
J'ai fait court.
Mais vous avez fait court et merci.
Sur une question qui est complexe.
Bien sûr. Et Jean-Pierre veut vous interpeller à ce sujet. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
À Dole, dans le Jura.
Très bien. Je viens d'entendre Madame Aubry, que je salue. Je pense que tout d'abord, elle a une vue très optimiste sur la situation du vivre ensemble. Bon, je ferme la parenthèse. Donc Madame Aubry n'a pas voté et est contre le nouveau pacte
asile-immigration.
Voilà, l'immigration. Donc, que vous jugez donc trop restrictif, trop sévère. En somme, pas assez généreux à vos yeux. Alors, la question, dois-je comprendre, Madame Aubry, que vous êtes pour une ouverture totale et sans limite des frontières européennes à toute forme d'immigration, sans restriction, une sorte d'entrée systématique avec des contrôles, disons, allégés, ou plutôt une entrée gratuite, sans contrainte numérique. Alors, avec à terme une régularisation totale pour ces nouveaux arrivants ou pas? Et puis, bon, si vous me permettez que je continue...
Très
quand même,
vite, mais question, vraiment très vite, Jean-Pierre, parce qu'il faut que tout le monde parle.
Alors, la question serait la suivante. Quelles seraient vos propositions concrètes et réalistes, disons, pour limiter, parce que là, on ne limite pas l'arrivée. On va répartir. On est en train de prendre des dispositions pour mieux
répartir. Quelles mesures pour limiter
voilà. Parce que, disons, moi, je pense que dans la prise de position, dans la prise de position de Madame Aubry, disons, c'est plus, disons, une vue, je dirais, aveugle pour une idéologie.
De l'utopie, pour ne pas dire de l'utopie. Je vous coupe, Jean-Pierre, et je vous donne la parole, évidemment, pour répondre à Jean-Pierre, Madame Aubry.
Bonjour, Jean-Pierre. Deux choses que je peux vous dire. La première, c'est que vous savez, ceux qui traversent la mer Méditerranée au péril de leur vie, en général, c'est qu'ils n'ont eu d'autres choix. On ne monte pas sur un radeau de survie comme on monte sur un bateau de croisière. Il est mort 30 000 personnes en mer Méditerranée ces 20 dernières années. Et donc l'enjeu qui est le nôtre est juste et une chose très simple, c'est sauver des vies. Moi, je n'accepte pas que des gens, quelle que soit leur nationalité, leur origine, meurt et que la mer Méditerranée soit transformée en tombeau.
L'urgence, maintenant, c'est de sauver des vies, c'est
oui,
pas
l'urgence,
de réguler l'immigration.
C'est de sauver des vies. Maintenant, vous savez, on quitte jamais sa terre par gaieté de cœur. Si vous, là, ici, en tant que journaliste à RTL, vous êtes heureux dans votre vie, vous vivez dans de bonnes conditions, je vous le souhaite, j'espère, sinon n'hésitez pas à vous syndiquer, mais vous, a priori, il n'y a pas de raison que vous quittiez votre terre, vous quittiez Paris si vous y habitez. Donc si les gens quittent leur terre, c'est qu'ils ont des raisons de quitter leur terre. C'est souvent la guerre, c'est souvent des incidents climatiques, des inondations, la sécheresse, etc. Et là-dessus, on a des leviers aussi pour agir. Parce que moi, évidemment, je préfère que les gens n'aient pas à quitter leur terre, parce qu'ils vont être déracinés. Et donc, pour ça, il faut agir sur ces leviers-là, notamment notre responsabilité qui est engagée dans un certain nombre de conflits internationaux, notre responsabilité sur le dérèglement climatique. Évidemment, tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts.
Vous voulez financer des mesures, des actions dans les pays d'origine.
C'est une des raisons pour lesquelles on avait une aide publique au développement qui est le premier budget dans lequel aussi coupe le gouvernement. Et puis, aussi pour cesser les rapports économiques inégaux. Les accords de libre-échange, de ce point de vue-là, sont aussi des rapports économiques inégaux qui maintiennent dans la misère un certain nombre d'États du Sud au sens large. La
prédation des multinationales, ça peut aussi leur donner du travail et des commandes aux entreprises.
En pratique, non, parce que ça les maintient dans un système d'exploitation. Moi, j'ai travaillé plusieurs années en République démocratique du Congo, notamment sur l'extraction de produits miniers, qu'il y a du cuivre, du cobalt dans vos téléphones, par exemple. Et les gens sont littéralement exploités. Donc, on a intérêt à ce qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions et qu'ils n'aient pas à quitter leur terre. Maintenant, quand les gens...
Mais comment l'Europe doit, alors je ne vais pas employer le mot se protéger de l'immigration, mais en tout cas s'organiser.
Elle doit s'organiser.
Pour
vous avez
faire
raison.
Face à cette immigration massive. Ça aussi.
Il y a un principe. Il n'y a pas d'immigration massive par ailleurs. Je vous donne un exemple. On a su accueillir plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens. En France, c'est plus de 100 000 Ukrainiens depuis le début de la guerre en Ukraine, sans aucune difficulté. Parce qu'on a su s'organiser pour le faire. Pourquoi on sait s'organiser pour les Ukrainiens et on ne sait pas s'organiser pour ceux qui fuient la guerre en Syrie ou en Afghanistan? Donc moi, cette différence, elle m'est insupportable. Et pour mieux s'organiser, il y a un seul principe qui est fondamental à comprendre au niveau européen, qui est problématique, qui est le principe des accords de Dublin. Vous avez le droit de demander votre droit d'asile uniquement dans le pays dans lequel vous arrivez.
Oui, mais ça veut dire qu'on demande ça en Grèce, qu'on
Exactement.
Demande ça en Italie.
Et donc, il n'y a aucune solidarité entre les États membres. Et ce que ce pacte asile-immigration était censé faire, c'était acter ce principe de solidarité. Il n'en a été rien. Et donc, c'est un échec. Je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse les Italiens ou les Grecs avoir à gérer tout seul, parce que oui, c'est une difficulté et on ne peut pas criminaliser. Je vous donne des exemples, genre des Syriens qui ont fui l'enrôlement obligatoire dans l'armée de Bachar el-Assad. Donc, il faut un minimum de principes d'humanité et de solidarité et en parallèle, d'agir sur les causes profondes des migrations que j'évoquais.
On marque une courte pause. Vous êtes face aux auditeurs d'RTL, Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise. On remercie Jean-Pierre
qui était
à Dôle. Muriel et Kamel veulent maintenant intervenir. On les attend tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Le grand jury des auditeurs.
Les Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le grand jury des auditeurs.
Bonjour Manon Aubry, Jean à l'appareil. 6 mois après le fameux 7 octobre, est-ce que vous condamnez les attaques terroristes du Hamas ? Je dis bien terroristes. Merci.
Voilà, Jean, qui résume d'ailleurs un certain nombre de questions d'auditeurs liées à cette polémique hein, qui a débuté dès le 7 octobre d'ailleurs, et votre vision donc du Hamas, groupe terroriste ou non, on vous repose la question 6 mois après.
Oui, je les condamne et j'ai pas attendu le mois d'avril pour les condamner. Dès le mois d'octobre, j'avais condamné ces attaques terroristes de la part du Hamas. Donc voilà, Marie, vous vouliez une réponse simple, voilà. Courte. Je peux pas faire plus simple et plus court.
Eh ben c'est très bien. Et Muriel d'ailleurs veut prolonger. Muriel, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'entendre la, en tout cas ce qui a été dit à l'instant par Manon Aubry qui condamne donc les attaques terroristes du Hamas.
Elle est une des rares.
Moi, non, j'ai une question. Toute ma formation politique l'a fait, Muriel. Bonjour.
Je voudrais savoir à quel point vous vous rendez compte que les paroles de votre formation contribuent à la montée de l'antisémitisme en France, voire en Europe. Et est-ce que c'est un dommage collatéral pour vous? Et ensuite, est-ce que la présence de Rima Hassan sur votre liste est faite dans cette perspective?
Voilà, donc on précise quand même, on donne une explication sur Rima Hassan.
Alors, plusieurs choses. D'abord, Muriel, on a eu l'occasion d'évoquer, vous l'avez peut-être entendu, l'antisémitisme en début d'émission. C'est un délit et notre histoire politique parle pour nous, on l'a toujours combattu. Et je le redis, on a condamné avec fermeté les attaques du Hamas du 7 octobre. Maintenant, ça ne doit pas donner un blanc-seing au gouvernement de Benjamin Netanyahou pour massacrer le peuple palestinien. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il est mort à Gaza, plus de 33 000 personnes. Il est mort à Gaza, autant d'enfants en 4 mois que d'enfants dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Et ces faits-là portent un nom, une responsabilité, c'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Donc oui, notre rôle et notre responsabilité, c'est de défendre la paix. J'observe qu'on était bien seul au début à défendre un cessez-le-feu et que même Emmanuel Macron le fait et qu'il ne faut pas juste qu'il parle, maintenant il faut qu'il agisse et notamment il faut qu'il arrête, la France arrête d'envoyer des armes au gouvernement israélien pour massacrer le peuple palestinien. Mmh. Et donc, Rima Hassan, qui est présente sur ma liste, c'est une militante franco-palestinienne pour la paix, c'est une spécialiste en droit international et je suis fière qu'elle soit présente à nos côtés. Rima a condamné, comme nous, les attaques du 7 octobre, et comme nous, elle se bat pour faire revenir la paix au Proche-Orient, pour protéger le peuple palestinien.
Et que le Hamas libère les otages, parce qu'on n'entend plus beaucoup parler des otages.
Bien sûr qu'on est pour la libération des otages, on l'a demandé dès le premier jour, je le refais ici, à cette antenne, et nous continuerons à le faire. Et que le meilleur moyen pour avoir la libération des otages, c'est de faire cesser le feu aussi dans la bande de Gaza. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'il y a une mobilisation très large en Israël maintenant pour contester y compris la stratégie politique de Benjamin Netanyahou. Je veux bien qu'on comprenne ça, ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza. On meurt de famine dans la bande de Gaza parce qu'ils sont privés d'eau, d'électricité, de nourriture.
On en parle tous les jours sur RTL.
On meurt de tout dans la bande de Gaza. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gazaouis, pour mériter ça?
Est-ce que vous êtes pour l'élimination du Hamas? L'élimination totale.
Mais ça veut dire quoi, l'élimination du Hamas? Évidemment que je ne veux pas que le Hamas puisse nuire. Mais si on me dit, au nom de l'élimination du Hamas, on va en réalité éliminer un peuple entier, c'est ça qui est en train de se passer. La Cour internationale de justice a très clairement dit que le génocide était imminent et a enjoint des mesures conservatoires à Israël, et depuis, ces mesures n'ont pas été prises et le génocide est en cours. Je ne veux pas faire partie de cette génération qui est restée les bras croisés face à un génocide qui est en cours dans la bande de Gaza. Donc c'est notre responsabilité,
utilisez
notre devoir.
Le génocide aussi.
Muriel, vous rendez bien compte.
C'est le droit international. Moi, je suis, y compris j'en ai fait, du droit international. Je respecte le droit international. Et la rapporteure spéciale des Nations Unies a dit que le génocide était démarré. Le rôle maintenant de la France et de l'Union européenne, c'est de ramener la paix dans la bande de Gaza, de cesser l'envoi d'armes, de cesser l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, de retrouver cette voie pour la paix. C'est ça l'histoire de la France et de l'Union européenne et qu'on doit retrouver maintenant.
Muriel, comme on a un droit de suite, un commentaire peut-être sur la réponse que vous a apportée Manon Aubry.
La réponse que m'a apportée Manon Aubry, c'est la réponse qu'on entend des autorités françaises, de l'ONU, partout en ce moment. Je nie le terme de génocide. Israël répond à une attaque.
Et c'est proportionné.
Non, elle n'est pas proportionnée. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Rester les bras croisés et attendre que ça se passe? le Hamas est prêt à repartir à l'attaque.
Mais plusieurs choses. D'abord, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les experts, à financer le Hamas. Parce que leur objectif, c'était d'affaiblir l'autorité palestinienne qui voulait une solution politique. La réalité, c'est que le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'a rien fait pour trouver une solution au conflit au Proche-Orient entre Israël et la bande de Gaza et la Palestine, qui n'a pas commencé le 7 octobre et qui dure depuis trop longtemps. Maintenant, notre responsabilité, c'est de faire cesser ce massacre, parce qu'une vie vaut une vie, il faut en protéger.
On reste sur le dossier international avec Kamel qui nous appelle des Lilas au nord de Paris. Bonjour Kamel.
Oui, bonjour. Bonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices.
Et à Manon Aubry.
Bonjour, et à Manon Kamel. Aubry, bien évidemment.
Allez-y, Aubry, posez votre question, Kamel.
Écoutez, au travers de ce que j'entends, bien évidemment, moi je prêche plutôt la paix et l'amour, et tous ceux qui pourront aller en ce sens me semblent être la chose la plus importante dans notre pays, notamment sur notre responsabilité ici en France à devoir être vraiment, non pas l'arbitre, mais vraiment cette nation qui est passée durant des décennies par des conflits, etc.
Oui. Et la population... Votre question, Kamel, on comprend bien ce que l'état des lieux que vous voulez brosser, mais est-ce qu'on peut aller, j'allais dire, au but?
Et alors, moi, en fait, je dirais à Manon Aubry, êtes-vous prêt à vous allier avec l'ensemble des politiques de ce pays, qu'ils soient de droite, de gauche, un grand nombre de concitoyens sans étiquette politique? Oui. Nous souhaitons que l'ensemble des politiques en France prennent une position conforme à ce que nous entendons, c'est-à-dire la paix.
Mais vous parlez de la guerre en Ukraine, vous parlez de quoi exactement, précisément ?
Oui, de la paix de la paix partout, la paix en Israël, la paix dans tous ces conflits qui existent aujourd'hui, et nous avons, nous, la France, un rôle important, très important à jouer. Mmh. Alors, il serait bon que les uns et les autres arrivent à converger pour arrêter de diluer dans notre société une espèce de psychose constante qui rend notre société, qui fait en sorte que notre société devient un peu nauséabonde. Il suffit d'aller dans la rue et vous le comprendrez. Voilà.
Voilà. Est-ce que, d'une certaine manière, j'essaye de me faire le porte-parole de Kamel, vous pensez qu'il doit y avoir une union nationale, notamment sur ces questions internationales? On parlait à l'instant...
Et peser sur la paix.
De Gaza, de l'Ukraine.
J'aimerais, mais vous voyez bien qu'il y a un désaccord aujourd'hui dans la classe politique. Quand moi, je prends un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et des sanctions à l'égard du gouvernement israélien pour qu'il arrête de massacrer le peuple palestinien, vous avez des responsables politiques qui préfèrent afficher un soutien inconditionnel au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mmh. Inconditionnel veut dire que, quel que soit ce qu'il fait, eh bien, il faut le soutenir. Je ne suis pas d'accord avec ça. De la même manière, en Ukraine, vous avez vu que le président de la République n'a pas exclu d'envoyer des troupes. Mmh. Raphaël Glucksmann prône une économie de guerre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine.
Moi, je vais aller plus loin, parce qu'on a parlé d'un sondage ce matin. Vous avez peut-être entendu parler. Sondage, étude menée par le CEVIPOF sur les 18-25 ans en France. Un jeune sur deux se dit prêt à revêtir l'uniforme et aller se battre sur le front en Ukraine si la France décide d'entrer en guerre. Un jeune sur deux, j'aimerais bien avoir votre réaction.
Je ne suis pas sûre que beaucoup de jeunes soient en réalité volontaires pour aller mourir sur le champ de guerre. Parce que c'est ça dont on parle. C'est l'éventualité, y compris que la France entre dans un conflit direct avec la Russie. Je rappelle que la France et la Russie sont deux puissances nucléaires. La puissance nucléaire, pour ceux qui se rappellent un peu l'histoire, on peut exterminer le monde entier. Donc, je pense que notre rôle et notre responsabilité, en particulier quand on fait de la politique, c'est de chercher la désescalade, de chercher ce chemin de la paix.
Un jeune sur deux qui se dit prêt à aller combattre, ça vous paraît, vous, Manon Aubry, acceptable ?
La question, c'est pas acceptation. La question, c'est quelle est la meilleure stratégie pour retrouver la paix ? Parce qu'on a tous intérêt collectivement à avoir la paix.
Et
je ne pense pas que l'escalade militaire...
Votre stratégie, c'est laquelle, alors ?
Moi, ce que
est-ce
je propose,
que c'est avec Poutine,
moi, ce que je propose,
augmenter les sanctions.
Moi, ce que je propose, c'est un plan de paix en trois parties. Le premier, c'est un soutien financier et logistique pour que Poutine ne gagne pas la guerre. Le deuxième, c'est ouvrir un canal diplomatique pour trouver ce chemin sinueux de la paix qui peut commencer par la protection des centrales nucléaires qui se trouvent en Ukraine. Il y en a 15 d'entre elles qui, là aussi, voilà, faire une guerre au milieu de centrales nucléaires, vous faites peser un risque sur le continent européen. Et troisième point, c'est acter des garanties de sécurité mutuelle qui permettra de trouver à la fin un accord de paix et aider à la reconstruction de l'Ukraine, notamment en annulant
mais
sa dette.
Ça a été signé, ça. Ça a été signé entre la France et l'Ukraine.
Alors non, je parle d'accord.
À l'Assemblée nationale.
Je vous parle d'acter des garanties de sécurité mutuelle entre les différents États. À l'Assemblée nationale, ce qui a été voté, c'est la stratégie globale de la France. Et oui, je ne suis pas d'accord à la fois avec l'escalade militaire qu'on évoquait, et je ne suis pas d'accord non plus pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. On peut aider financièrement l'Ukraine, on doit le faire, mais on ne doit pas le faire au péril de notre agriculture et de notre industrie.
Ah bah tiens,
on va affaiblir notre agriculture et notre industrie.
On va en reparler.
Ne, n'aidera pas l'Ukraine, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais si on va en reparler.
Eh ben oui. Rendez-vous après la pub. Agriculture, justement. Après ça, oh bah, après la pub, elle fait tout.
Vous pouvez m'embaucher.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le grand jury des auditeurs.
Et pour encore quelques minutes, Manon Aubry, tête de liste, la France insoumise aux élections européennes, répond aux auditeurs d'RTL, répond à Samuel en l'occurrence. Samuel, éleveur de porc bio. Bonjour Samuel.
Oui, bonjour.
Et Manon Aubry vous écoute.
Bonjour Samuel.
Oui, bonjour Manon Aubry. Je vous appelais par rapport au glyphosate, parce que ça fait des décennies qu'on parle d'interdiction du glyphosate en agriculture. Chaque fois qu'il faut statuer, la Commission européenne en fait repousse et finalement on voit pas d'interdiction arriver. On se rend bien compte qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il va falloir amener d'autres solutions pour se passer du glyphosate. Mais tout l'argent qui est mis dans des plans éco-phyto en fait ne sert pour l'instant pas à grand chose. Donc la bio est une des solutions pour sortir du glyphosate. Moi je voulais savoir qu'est-ce que vous comptiez mettre en place pour accompagner réellement les producteurs vers une sortie de glyphosate avec des solutions réelles, et est-ce que la bio est pour vous une solution pour aussi sortir de ce glyphosate et comment vous allez l'accompagner?
Eh bien voilà.
Merci, merci Samuel. Vous avez raison de parler quelque part d'une forme de trahison sur le glyphosate, parce que c'est une promesse qui a été faite par Emmanuel Macron lui-même et qui ensuite, quand s'est posé la question au niveau européen de l'interdiction du glyphosate, qui ne l'a pas voté. Et le résultat, c'est malgré le fait qu'on sache désormais que ce soit un cancérigène probable, eh bien le glyphosate a été réautorisé au niveau européen. Et pour moi, ça c'est le résultat de l'influence des lobbies qui est beaucoup trop importante au niveau européen. Moi, je me suis battue pendant tout mon mandat pour dégager les lobbies des institutions européennes qui, la réalité, font la loi. On a un quart des députés européens qui sont payés par des ingérences étrangères, par des lobbies ou par des entreprises, en plus de leur indemnité d'élu. Et j'ai été la seule à proposer au Parlement européen qu'on interdise ces rémunérations annexes. Je parle de ce combat contre les lobbies parce qu'en réalité, c'est ce qui est en filigrane. On ne ramènera pas des lois européennes dans l'intérêt du plus grand nombre sans faire le ménage, parce que les lobbies, c'est comme les vampires, ils détestent la lumière. Donc maintenant, il faut se débarrasser de l'opacité européenne. Et pour aider les agriculteurs.
Sur le plan pratique, le glyphosate, avec le groupe dans lequel vous siégez au Parlement européen, vous n'aurez de toute façon jamais la force de l'interdire.
Bah attendez, ça dépend du résultat du 9 juin. Si vous êtes contre le glyphosate, alors votez pour ma liste que je conduis de l'Union populaire. Si vous adorez glyphosate et que vous voulez encore plus de cancer, vous pouvez voter pour la liste de Madame Hayet, la macroniste. Et je veux juste finir sur l'aide aux agriculteurs. Pour ça, oui, il faut les accompagner. Et c'est pour ça qu'il faut complètement réorienter la politique agricole commune pour aider précisément des agriculteurs comme Samuel qui montrent qu'un autre modèle est possible.
Alors, dans les auditeurs et effectivement les candidats dans cette émission, il y a une tradition. On pose une question à l'invité de la semaine prochaine. C'est-à-dire que la semaine dernière, c'est Marion Maréchal qui vous a posé cette question. On la réécoute.
J'ai débattu il y a quelques semaines avec Mathilde Panot, qui fait également partie de la LFI, comme vous le savez. Alors j'aurais bien aimé qu'elle me réponde à la question sur laquelle Mathilde Panot était un peu gênée, de savoir est-ce que le racisme anti-blanc existe. Voilà. Donc Madame Aubry, est-ce que le racisme anti-blanc existe selon vous?
Voilà, question qui vous est adressée par Marion Maréchal.
Je retourne la question à Marion Maréchal Le Pen. Combien de fois dans sa vie a-t-elle fait l'objet de racisme? Le racisme, si vous prenez la définition, c'est un système structurel de domination qui théorise la supériorité d'une race sur l'autre. Et en pratique, qui se traduit par des discriminations. C'est par exemple aller voir tous les jeunes arabes ou les jeunes noirs dans les quartiers populaires qui font l'objet 20 fois plus de contrôle aux faciès que n'importe qui dans la rue, vous, moi, n'importe qui d'autre.
De la part des forces de police, mais dans ces secteurs, dans ces quartiers,
non, mais c'est des discriminations aussi au logement. C'est des discriminations d'accès au logement, c'est des discriminations d'accès à l'embauche. C'est ça aujourd'hui le racisme dans notre pays. Et je pense que manifestement, Marion Maréchal Le Pen ne connaît connaît pas bien le racisme pour en parler de cette manière-là.
Merci beaucoup. Alors du coup, bah, moi, c'est maintenant, je m'adresse à vous pour l'invité de la semaine prochaine. Ça sera Valérie Hayet, qui est tête de liste, vous le savez, Renaissance. Renew. Voilà, Renew.
J'ai une question pour Valérie Hayet, puisqu'elle refuse jusqu'à nouvel ordre de débattre avec moi et manifestement à ce stade préfère débattre avec l'extrême droite. Je veux lui demander, elle qui est fille ou petite fille d'agriculteur et qui n'a de cesse de défendre l'agriculture, pourquoi elle vote à tour de bras des accords de libre-échange, comme un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui va faire venir du lait de l'autre bout du monde alors qu'on en produit ici et de très bonne qualité?
Voilà, la question posée, vous aurez évidemment la réponse la semaine prochaine avec le grand jury des auditeurs d'RTL, avec Valérie Hayet. Merci beaucoup.
Merci à vous de l'invitation.
Ça s'est bien passé.
Oui, nickel.
Et ben voilà, pour nous aussi et pour les auditeurs d'RTL.
On parlera
aussi
un peu plus de questions sociales, j'espère, la prochaine fois. Merci que vous me réinvitez. Ce qui est la première préoccupation des Français, la vie chère.
Voilà, et nous, on va parler des HLM dans un instant. Il faut faire le tri dans les HLM. Et
je pense que plutôt que de faire la chasse aux locataires, on devrait plutôt créer du logement social. Ce sera un peu plus efficace contre les gens qui galèrent à avoir un logement.
On va en parler tout
4 millions de gens quand même, hein, de mal logés dans le pays.
Merci beaucoup, Manon Aubry.
Merci à vous.
Jusqu'à 14h30, Vincent Parisot vous donne la parole sur RTL. Vincent Parisot, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Voilà, et le débat qu'on ouvre maintenant tient en trois lettres, HLM, parce que le gouvernement aimerait que les locataires qui sont devenus trop riches par rapport aux règles fixées quittent leur logement social. Le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, sonne la charge d'ailleurs dans le journal Les Échos. Il assure que 8% des locataires n'ont plus rien à faire dans leur HLM. Encore faut-il évidemment pouvoir les faire partir, les pousser vers la sortie. En tout cas, c'est l'objectif. 1 800 000 personnes sont en effet en attente d'un logement HLM. Et Rachel a fait le 32-10 pour intervenir sur ce sujet. Bonjour Rachel.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous nous appelez de région, de quelle région?
De l'Essonne.
De l'Essonne.
Et donc, voilà, ça m'interpelle cette histoire d'HLM, parce que moi-même, je suis locataire.
Vous êtes en HLM?
En HLM, ouais. J'ai un petit deux pièces. Ouais. Et j'aimerais bien en partir, parce que je paye un surloyer.
Voilà,
pourtant,
parce que vous avez...
je suis retraitée,
ouais.
Donc j'ai pas une retraite quand même.
C'est un HLM que vous avez commencé à occuper quand?
À la mort de mon mari.
D'accord.
En 2016. Sinon, auparavant, nous étions dans le parc privé.
D'accord.
Sur la région parisienne.
D'accord. Donc vous avez toujours payé ce petit supplément, j'ai envie de dire, parce que vous êtes au-dessus de la limite, j'imagine.
Non, depuis que cette résidence a été rachetée par un bailleur HLM, sinon c'était une société privée.
Ah, d'accord.
Voilà, et ça a été racheté par 3F, hein, pour ne pas le nommer.
Oui.
Et donc, j'ai un surloyer qui n'est pas énorme, parce qu'on peut pas m'augmenter au-dessus d'une certaine somme par an.
Uh-huh.
Et donc, je paye ce surloyer. La population a quand même changé depuis que cette résidence est devenue HLM.
Ouais.
Et donc, j'aimerais bien en partir. Mais alors, je suis retraitée, j'ai 70 ans. Mmh. Et si je loue un appartement chez un bailleur privé, je vais avoir un bail d'un an à 3 ans. Après, si le propriétaire décide de vendre son appartement, il en a le droit. Et moi, je me retrouve à la rue.
Oui,
ou
oui,
alors à déménager tous les 3 ans.
Oui, oui, d'une certaine manière, le statut HLM vous protège. Hein, c'est même
tout
pas d'une
fait,
certaine
c'est
manière.
C'est la raison pour laquelle
ça vous protège.
Je reste.
Voilà, et puis en plus, vous êtes retraité. Et de ce point de vue-là, ils ne pourront pas, de toute façon, vous demander de partir. J'ai envie de dire,
oui,
vous êtes un peu tranquille, mais je comprends ce que vous voulez nous dire.
Oui, j'ai aucune crainte. Oui, oui, c'est pour ça que je choisis la sécurité. Mais moi, j'aimerais bien, même quitte à payer un petit peu plus et à me loger ailleurs. Mmh. Mais il n'y a pas non plus, en Ile-de-France, beaucoup de locations possibles avec des baux de 6 ans.
Oui, 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 effectivement, vous avez raison. On comprend effectivement votre point de vue. On vous souhaite quand même une bonne journée.
Merci beaucoup.
Rachel, dans votre HLM de l'Essonne, Gaëtan a fait le 32-10 aussi. Bonjour Gaëtan.
Oui, bonjour.
Vous avez entendu ce que vient de dire Rachel.
Oui, j'ai entendu ce que j'ai... Je comprends, mais enfin, il faut dire que la plupart des gens sont dans cette situation-là. Ce sont des baux 3-6-9.
Oui.
Donc, la plupart des locations, il est très difficile pour un propriétaire de mettre un locataire dehors. Hein. Les lois protègent fortement le locataire. Mmh. Donc, le cas qu'elle présente, c'est un cas qui se présente peu souvent sous le marché.
C'est vrai.
C'est une exception. Mmh. Donc, moi, ce que je reproche actuellement, c'est qu'en fait, les HLM ont été créés pour ceux qui étaient dans le besoin, qui avaient des difficultés financières à un moment donné. Heureusement, la vie a continué, ils ont eu des emplois, ils se sont enrichis.
Ils ont eu des enfants qui parfois ont quitté le domicile, donc ça change
exactement.
Tout aussi.
Voilà, et puis à un moment donné, il faudrait un retour d'ascenseur, c'est-à-dire qu'ils sont ils ont la capacité financière de pouvoir louer dans le privé, mais non, ils gardent leurs biens, et vous avez une liste d'attente de gens qui sont vraiment dans le besoin, et qui sont dans des conditions épouvantables.
Vous pensez qu'il faudrait les obliger à partir?
Ben oui, je pense que si maintenant ils ne répondent plus aux critères pour pouvoir accéder au HLM, je ne vois pas pourquoi on les garde. Ils doivent laisser de la place à ceux qui sont vraiment dans le besoin et dont les critères financiers leur permettent de pouvoir accéder aux HLM. Par contre, ceux dont les finances leur permettent d'aller dans le privé et qui laissent la place à ceux qui sont plus dans le besoin qu'eux-mêmes.
Oui, mais même si aujourd'hui, on le sait, hein, si vous dépassez un certain revenu, vous payez quand même, hein, vous payez un surplus.
Oui, mais enfin, ce surplus, est très peu par rapport à la réalité des choses. Je crois que même, il y a des gens qui sont dans le besoin, il faut plus s'en occuper. Comme on s'est occupé de ces gens-là lorsqu'ils ont demandé un HLM, ce qui n'est pas normal, qu'à un moment donné, ils disent, bon, j'y suis, c'est bien ici, j'y reste.
Ils doivent renvoyer l'ascenseur, voilà.
Exactement,
on comprend ce que vous voulez dire, en tout cas. Ils doivent renvoyer l'ascenseur et peut-être qu'on devrait faire en sorte qu'ils soient contraints à un moment de renvoyer l'ascenseur. Merci beaucoup. Oh, j'entends cette musique, je la connais par cœur. Ça, c'est la musique de l'heure du crime.
Eh oui.
Ah, moi, j'ai des frissons.
Vous avez de l'oreille, hein.
Bonjour, Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, Vincent Parisot.
Alors, est-ce que le grand jury des auditeurs ont la parole va se transformer en grand jury de l'heure du crime?
Écoutez, tout est permis, vous savez, dans l'heure du crime. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une heure du crime un peu particulière, un peu spéciale, puisque je vais prendre votre relais, mon cher Vincent. On va, nous aussi, écouter les auditeurs, écouter leurs questions, discuter avec eux. Et je les invite à aller sur le 3210, évidemment, pour poser leurs questions et puis intervenir sur l'antenne, parce qu'on va discuter crime pendant une heure. Avec des sujets du moment qui ne manquent pas.
Bien sûr.
Le petit Émile, du pont de Ligonnès aussi. Où est-ce qu'on en est de ces histoires d'ADN? O.J. Simpson, là, c'était hier, il est décédé. Il y a eu le procès du siècle aux États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Et puis, il y a beaucoup de cold cases aussi. Je sais que ça intéresse nos auditeurs. En tout cas, tout est ouvert. Moi, je suis prêt à répondre et à discuter avec eux. J'ai les réponses, je les donnerai. Si je ne les ai pas,
vous les avez toutes.
On restera amis, j'ai
vous
envie
les
de
avez
dire.
Toutes. Vous êtes l'encyclopédie.
C'est gentil, mais non, il y a plein de choses que j'ignore.
De ces affaires criminelles. Et donc, les auditeurs d'RTL vont pouvoir vous mettre à contribution. Et dès maintenant, ils peuvent faire
le
3210.
Tout le monde est bienvenu, donc allez-y, n'hésitez pas, on vous attend.
L'émission commencera à 14h30. À tout de suite. On vous rappelle l'actualité dans un instant.
Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
Lidl.
RTL.
Il est 14h01. À une minute près, elle est à l'heure, Lisa Marie Marquez, pour nous rappeler l'essentiel de l'actualité, et notamment cette marche blanche pour Chemseddine qui va démarrer dans quelques minutes.
Oui, une marche blanche qui doit partir de la MJC de Viry-Châtillon dans l'Essonne à 14h30 pour rendre hommage à Chemseddine, l'adolescent de 15 ans, mortellement agressé devant son collège la semaine dernière.
Même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde et à tous les motards, le contrôle technique des deux roues obligatoires va bien commencer dès lundi.
3 millions de véhicules sont concernés. Et dès le 15 avril, toutes les motos, tous les scooters à deux ou trois roues, les quads et les voiturettes devront passer le contrôle technique sous peine d'amende. Les motards sont en colère. Plus de 60 manifestations sont prévues dans toute la France demain.
Ah, mais des voiturettes aussi. Donc, absolument. Ce n'est pas uniquement le contrôle technique des deux roues, ça peut être des quatre roues aussi, parfois.
C'est vrai.
Le président propose 30 minutes de lecture par jour pour les enfants. C'est quoi cette histoire ?
En visite au Salon du Livre de Paris, Emmanuel Macron estime que c'est un bon moyen de lutter contre les écrans. 30 minutes de lecture par jour pour les enfants.
Bon, effectivement. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans cette
avec
émission.
Les auditeurs.
Ben, et voilà. Et Éric Brunet qui fera son retour lundi, rappelons-le. Le ciel ?
Demain, en résumé, un temps beau et chaud nous attend. Les températures seront en hausse. Le matin, 7 à 13 degrés attendus en général, avec des pointes à 17 degrés près de la Méditerranée.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Vincent Parisot sur RTL.
Moi, je pensais qu'on allait avoir un peu de musique, voyez-vous.
Mon HLM et la montre du 8e.
Ça, c'est évidemment un vieux classique pour tous les amateurs de Renault, mon HLM. La question qui se pose, c'est aujourd'hui les HLM, c'est pour toute la vie. Le gouvernement veut en effet pousser ceux qui en ont les moyens à quitter leur logement HLM. Le ministre du Logement estime que 8% actuellement des locataires n'ont plus rien à y faire. Voilà ce qui est dit par le ministre. Et vous, comment vous réagissez Serge a fait le 32-10. Serge, il est à Nemours. Bonjour Serge.
Bonjour, comment allez-vous ?
Bah écoutez, ça va. Ça va bien, moi ça va aussi, bien. Ça je suis ravi d'avoir passé cette semaine avec tous les auditeurs d'RTL. Vous êtes sous un beau soleil à Nemours aussi, non ?
Oui, très beau soleil. Là, je suis au bord du Loing en train de marcher tranquillement.
Oh bah, ça vous êtes bien.
Près des bateaux, là, c'est magnifique.
Bon, profitez c'est bien magnifique. De cette région, effectivement, au bord du Loing. Dites-nous, alors, les HLM, est-ce que vous partagez le point de vue du tout gouvernement, qu'il faut faire un peu le ménage là-dedans.
Oui, tout à fait, parce que moi, bon, je vous explique, quand j'étais jeune, j'ai eu un HLM que j'ai laissé parce que mes revenus ont monté, et je trouvais ça normal parce que quand les revenus augmentent, vous pouvez payer un peu plus cher. Hein. Moi, par exemple, je payais, j'avais pris un appartement qui n'était pas HLM, mais je payais 800 euros et la voisine d'en face payait 50 euros parce qu'elle avait des faibles revenus. Ouais. Et ça, c'est normal. Mmh. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné laisser la place et puis aller dans le privé.
Mais c'est sur la base du volontariat, effectivement, laisser la place. Vous avez fait, et d'ailleurs, comme ce que disait l'un des auditeurs précédents, vous avez renvoyé l'ascenseur, finalement,
au HLM.
Vous en avez profité à un moment où vous en aviez besoin, dans votre jeunesse, et à un moment, vous vous êtes dit, aujourd'hui, j'ai les moyens de me loger ailleurs.
Voilà, je vais même vous donner un exemple. J'avais pris un appartement et la CAF m'avait dit vous avez droit aux APL. Et je leur avais dit, vu mes revenus, je n'y ai pas droit. J'ai contesté 4 fois, donc ils m'ont versé mes APL et au bout de 6 mois, on m'a demandé de rembourser parce que je n'y avais pas droit. Ouais. Alors que je leur ai dit 4 fois.
Ça faut faire attention. Enfin, vous estimez que... Bah alors, après, le problème, c'est que c'est sur la base du volontariat. Il faut quand même pousser vers la sortie, d'après vous, les locataires, ces locataires-là.
Je pense que les sociétés d'HLM ont, à mon avis, la taxe, le revenu imposable des personnes. Mmh. Et à partir d'un certain revenu, on peut demander à la personne de bouger.
Ouais, mais c'est compliqué. Vous vous rendez compte, vous allez demander à des gens de déménager, alors qu'ils ont peut-être des enfants qui sont scolarisés, ils ont peut-être leur habitude dans le quartier ou dans le secteur, peut-être leur emploi dans le quartier ou dans le secteur. C'est une petite, c'est demander beaucoup quand même. Hein.
Demander beaucoup ou alors augmenter davantage les loyers. C'est-à-dire que moi, je sais que je l'ai fait. Hein. Moi, j'avais une femme et une enfant et ça ne m'a pas empêché de déménager, même si j'avais 20 minutes de plus de trajet pour mon boulot. Mais je pense que c'est important parce qu'il manque tellement d'appartements et qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'appartements qu'à un moment donné, quand on a les revenus, il faut bouger. Hein. Aujourd'hui, moi, je suis propriétaire, mais aujourd'hui, j'ai fait ce choix-là. Chacun a sa conscience, et puis
chacun a sa conscience, oui, mais effectivement, c'est pas toujours évident de dire à quelqu'un, maintenant vous gagnez trop par rapport aux critères qui sont retenus pour ces HLM, ça serait bien pour le système que vous partiez. Merci beaucoup de votre appel, et bonne après-midi au bord du Loup. Profitez bien sous le soleil. Attention au coup de soleil.
Merci beaucoup.
Gilles, au revoir. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Artisan menuisier, je crois.
Tout à fait.
Alors, les HLM, est-ce qu'il faut demander à ceux qui gagnent trop de s'en aller ?
Non, je pense pas qu'il faudrait leur demander de s'en aller, mais par contre, ça serait bien qu'ils payent peut-être un loyer standard, comme s'ils étaient dans le privé. Et ça permettrait de garder une mixité sociale un petit peu. de ces habitants de DHLM, en fait. Ça serait dommage de les faire partir, sachant qu'ils pourraient payer un loyer plus élevé et qui, en même temps, remplirait un petit peu les caisses pour construire d'autres bâtiments éventuellement.
Oui.
Mais par contre, faire sortir effectivement ceux qui ont des résidences secondaires. Eux, c'est sûr qu'ils ne devraient pas avoir de HLM.
Ah oui, c'est ça. Alors, par exemple, effectivement, ça fait partie de ceux qui sont dans le viseur du ministre. Comment expliquer qu'on occupe un logement social alors que parallèlement, on a une résidence secondaire ?
Voilà, tout à fait. Ça, c'est, pour moi, ça coule de source. Mmh. Mais après, voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs revenus de personnes dans ces cités HLM, quoi. Mmh. Moi, je trouve que c'est vraiment le cœur de la mixité.
Voilà, c'est important de ne pas avoir, excusez-moi l'expression, mais il faut appeler parfois un chat, que des pauvres ou des très pauvres.
Oui,
dans un secteur, c'est bien qu'il y ait un peu de mixité sociale, mais il faudrait leur faire payer quand même plus que le surplus aujourd'hui qui est versé et qui ne représente pas grand-chose.
Bien sûr, mm-hmm. Moi actuellement, j'en bénéficie pas, mais ma belle-mère est dans un HLM,
oui.
Aujourd'hui elle se retrouve toute seule, elle a un T5.
Oui, c'est ça.
Donc voilà, elle n'a pas les revenus qui sont ultra élevés.
Et en même temps, vous voyez mal qu'on oblige votre belle-mère à déménager.
C'est ça. Elle habite là-bas depuis 40 ans, elle s'y plaît. Et
c'est sa vie.
Elle s'entraîne pour rien au monde.
Voilà, c'est sa vie, évidemment. C'est son quartier. Ce sont ses voisins, ce sont ses amis. Merci beaucoup, Gilles. On vous souhaite une bonne journée. On va marquer une courte pause et puis vous retrouver dans un instant au 32-10. On va rester sur cette question des HLM qui vous mobilise. On a Jocelyn, on a Jean-Claude, on a Franck qui attendent. C'est pour bientôt, vous allez passer à l'antenne, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Vincent Parisot.
Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
Pour déshabiller Paul, pour habiller Pierre. Au lieu de construire des logements intermédiaires, d'avoir des constructions HLM plus importantes, on gère la misère. Donc on va demander maintenant aux peu de gens qui restent dans l'HLM qui payent de partir, pour y mettre des gens qui ont droit au HLM aussi. Mais quand on fait des demandes pendant 10, 12 ans à la mairie ou pour avoir des logements, aucune réponse, rien, nada. Par contre, on va vous dire maintenant, fichez le camp, vous êtes trop riche.
Voilà, on gère la misère, nous dit cet auditeur. Et moi, je précise que 1 800 000 personnes sont en attente aujourd'hui d'un logement, et notamment via les HLM. On a Jocelyn qui nous appelle de Besançon. Bonjour Jocelyn.
Oui, bonjour Vincent.
Bienvenue, vous êtes un jeune barman, on peut dire ça comme ça ?
Oui, je suis en projet de reconversion justement, je suis en train d'essayer de créer un bar.
Voilà. Très bien, voilà, c'est un futur jeune, parce que je vois votre âge, 26 ans, vous êtes assez jeune.
Tout à fait.
Donc, en reconversion. Vous n'êtes pas en HLM hein ?
Non.
D'accord.
Moi, j'en ai jamais bénéficié, non.
D'accord.
J'en ai pas eu besoin.
Mais alors, que vous inspire ce débat, et pour ne pas dire cette polémique, on entend en tout cas que les auditeurs d'RTL, ils sont sensibles.
En fait, moi, j'ai été élevé par des parents qui m'ont toujours appris que les aides fournies par l'État sont là pour fonctionner comme un système d'assurance. C'est-à-dire que ponctuellement, si on se trouve en difficulté, l'État tend la main pour aider ça. C'est ça, le socialisme. Mmh. Et j'ai été élevé dans cette sphère-là. L'assurance, que je sache, ça fonctionne sur le système de l'aléa. On peut pas. Moi, si aujourd'hui j'étais bénéficiaire d'un HLM à 26 ans, j'ai droit à ce HLM à vie. J'ai envie de vous dire, comment est-ce que je peux demander un effort de la société jusqu'à la fin de ma vie, en disant que je vais être ponctuellement en besoin jusqu'à la fin de ma vie? C'est quand même pour moi un cruel manque d'ambition. Mmh. Alors quand je dis ça, bien sûr, j'exclus les gens qui n'ont pas la même chance que moi. J'exclus les personnes en situation de handicap, voilà. Tous les gens qui n'ont évidemment pas les mêmes chances que moi. Mais pour ceux qui les ont, à un moment donné, ça devrait être limité dans le temps. Ça devrait être un coup de pouce,
excusez-moi l'expression, on reprend un film, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'il y a des aléas dans la vie et que parfois ça va très bien, puis ça va aller très mal, puis ça va aller un petit peu mieux. C'est pas une ligne droite.
Non, mais pourquoi pas y revenir? Je veux dire, si aujourd'hui à 26 ans j'en ai besoin, que dans 2 ans j'en ai plus besoin et que dans 6 ans j'en ai re-besoin, ouais. Je serais content d'en trouver un de HLM. Mais là, le problème, vous venez de dire qu'il y a 1,8 million de personnes qui en ont besoin, qui n'en ont pas, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'ambition d'en partir et de laisser leur place. Donc
ça serait quoi la solution? Des HLM de courte durée?
Alors, HLM à vie quand même pour les gens qui n'ont pas la même chance que moi dans la vie.
Toutes
les personnes
bien sûr.
En situation de handicap. Il faut pas toucher ça. Il faut vraiment leur laisser la possibilité d'être en paix.
Ouais.
Par contre, toutes les personnes qui ne font manifestement pas le maximum pour en sortir, effectivement, une durée limitée avec obligation de prouver qu'on fait un effort pour sortir de ça et qu'on ne vit pas sciemment au crochet de la société.
Et si on ne répond pas à ces critères, au revoir monsieur, vous devez avoir quitté les lieux dans les 6 mois.
Oui, alors ça c'est violent, un rêve, hein, parce qu'on le fait déjà pas pour des squatteurs. Alors,
voilà, c'est ça.
Voilà. Non, après c'est violent, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu violent de demander aux gens comme moi, aux gens comme vous, et comme peut-être beaucoup de vos auditeurs, de travailler, de payer pour ça.
C'est ça.
C'est violent aussi. Parce que
c'est la société qui paye.
On paye beaucoup pour ça. Donc après, je sais que tous vos auditeurs ne seront pas d'accord avec moi, mais ceux qui ne le sont pas, je voudrais qu'on m'explique. Pour quelle raison est-ce qu'on peut décider d'être au crochet de tout le monde toute sa vie?
Alors, il y en a un certain nombre, en tout cas, qui sont d'accord avec vous, Jocelyn. Je pense que Franck est assez d'accord avec vous. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, Vincent, et bonjour, Jocelyn, bonjour, les auditeurs. Je vais dans sa continuité. Pour bénéficier de l'allocation logement, la caisse d'allocation familiale demande de toute façon, tous les ans, de nous demander nos revenus pour nous attribuer ensuite une aide au logement. Oui. Donc maintenant, tous les 5 ans, on pourrait aussi faire la même chose, parce qu'on sait très bien qu'on peut démarrer dans la vie à travailler à 18 ans ou à 20 ans, on est au SMIC, mais on va espérer quand même avoir une évolution de carrière tout au long de ces 40 années de cotisation, et qu'après, on va peut-être avoir une augmentation de 200 euros brut, 300 euros, et qu'au bout de 5 ou 10 ans, on peut bénéficier au 1% logement, on peut devenir propriétaire, et donc on libère un logement pour des jeunes qui sont en difficulté, ou comme l'a dit Jocelyn, pour des personnes avec un handicap, des accidentés de la vie, au travail, etc.
Oui, moi, bien sûr. Donc vous imaginez par exemple, Franck, un contrôle tous les 5 ans?
On parle d'intelligence même artificielle, donc tous les logiciels de la fonction publique, on pourrait se regrouper, puisqu'on déclare nos impôts, on sait qu'on gagne par exemple que 20 000 euros par an, on déclare 20 000, donc on peut ouvrir un logement social. Il faudrait que tous les fichiers, tous les logiciels se regroupent, et puis à mon avis, on verrait que tiens, cette personne-là n'a pas beaucoup de revenus, donc on va peut-être lui proposer un logement social, mais cette personne-là qui déclare 40 000 euros de revenus annuels, qu'elle soit mariée ou pas mariée, célibataire, avec ou sans enfant, ça permet de voir aussi les enfants à charge, et qu'il faut libérer aussi peut-être des appartements qui ont 3 chambres, alors qu'on n'a plus que
on avait l'exemple de cette dame qui vit tout seul dans un appartement avec effectivement
ça s'appelle la solidarité nationale. Donc il faut être solidaire, et moi j'ai eu de l'allocation logement quand j'étais étudiant, j'ai eu un logement de fonction quand je travaillais à l'hôpital. Maintenant je gagne ma vie pas correctement, je veux dire, et ben maintenant je suis locataire et j'espère devenir propriétaire bientôt. Mais il faut se prendre en main, il faut arrêter d'être assisté de la naissance à la mort, j'ai envie de dire.
C'est dit, Franck.
Et Vincent ?
Oui.
Juste une dernière chose. Demain, c'est l'anniversaire de Victor, votre responsable du standard.
Alors,
en avance, je lui fais un joyeux anniversaire parce que c'est agréable de l'entendre.
Ça, c'est drôlement sympa, Franck. Alors, Victor est absent aujourd'hui.
J'ai entendu sa voix.
Il doit préparer son anniversaire. Il a dû aller acheter les bougies et le gâteau.
Il faut faire la fête ce week-end, c'est ça.
Eh ben, en tout cas, on lui passera votre bonjour, votre salut.
Merci,
Franck.
À bientôt.
On va conclure l'émission maintenant. Donc,
moment de partir.
Merci à vous, Franck, merci à Jocelyn, merci à tous ceux que malheureusement on n'aura pas le temps de prendre. Jean-Claude et Gilles notamment, on les salue au 3210. Et comme vous l'avez dit...
c'est le moment de partir à l'étranger.
C'est le moment de s'aérer un peu et de penser à notre auditeur du bout du monde.
Et d'abord de trouver sa destination. Aujourd'hui, un petit medley musical en indice sonore pour trouver la destination.
J'ai rêvé New York, New York City sur le sol.
Une pluie de dollars, ici, nous gagnons.
Et c'est cadeau, non? Allez, 3210.
Vous nous envoyez un message sur l'application RTL pour tenter de remporter un guide du routard si vous avez trouvé la destination de notre auditeur du bout du monde.
C'est sur l'appli, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Vincent Parisot. Les auditeurs ont la parole.
Avec Vincent Parisot sur RTL.
J'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun...
C'est pas un jour j'irai à New York avec toi, c'est tout de suite. Je vais à New York retrouver Guillaume, notre auditeur du bout du monde, parce que c'était bien New York, Enzo, qu'il fallait trouver.
Oui, tout à fait, c'était bien New York, et c'est Samir de Tourcoing qui remporte le guide du routard.
Eh ben bravo à Samir, et bonjour Guillaume.
Good morning Guillaume.
Bah oui, good morning.
Bonjour, good morning, comment allez-vous?
Bah oui, bah il est tôt chez vous, 8h22, c'est ça?
Tout à fait, avec moins 6 heures de décalage horaire par rapport à votre heure.
Bon, bon, en tout cas, vous avez bien la pêche, visiblement. Alors, vous allez nous expliquer ce que vous faites à New York. J'ai juste une question, moi. Je crois que vous êtes sur place depuis environ un an.
Absolument.
Est-ce que vous vivez toujours votre rêve américain? Est-ce que lorsque vous entendez une sirène de police, vous avez toujours l'impression d'être dans un film ou une série?
Absolument, ça fait partie de mon quotidien et l'American Dream, c'est du matin au soir depuis un an.
Alors qu'est-ce que vous faites, Guillaume, à New York depuis un an?
Alors j'ai rejoint New York il y a un an et je travaille au service des ressources humaines d'un hôtel de luxe situé à Times Square, dans l'île de Manhattan, qui est l'intercontinental New York Times Square.
Ah oui.
Un très gros hôtel avec 607 chambres et 400 salariés.
Ah oui, c'est énorme. Times Square, pour que ceux qui ne connaissent pas l'imaginent, ils l'ont vu forcément, c'est cet endroit où vous avez
des lumières, des écrans
de partout. C'est absolument insensé. Et là, il y a des touristes du monde entier.
On a des touristes du monde entier. Au quotidien, nos 607 chambres sont louées toute l'année à 100%.
Bon, ben, en tout cas, ça marche bien. On a compris que pour le tourisme, en tout cas, et pour l'hôtellerie, ça marche. Et vous, alors, petit Français, enfin petit, je n'en sais rien, en tout cas, jeune Français à New York, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous appréciez le plus?
Alors c'est une aventure qui est absolument différente qu'ici en Europe, enfin que chez vous en Europe. Il y a un vrai positivisme, une vraie gratitude, une reconnaissance finalement du peuple américain, enfin des gens qui sont aux États-Unis. Ils sont toujours positifs, ils se plaignent jamais et ils se contentent de ce qu'ils ont. Il y a vraiment un encouragement vers la performance. Ils sont toujours vas-y, you can kill it, tu peux y aller, tu es le meilleur, vas-y. Et c'est vraiment super. Ça change.
Ça change de la France. En France, on va vous expliquer pourquoi vous n'allez pas arriver à faire quelque chose
avant même d'avoir
commencé. Et c'est vrai que les Français sont grincheux.
Guillaume, la vie est quand même très chère.
C'est exactement ça.
Et la vie est quand même très chère à New York comparée à la
France. Tout à fait. Alors, la vie est beaucoup plus chère. Évidemment, les salaires sont en conséquence. On dit que New York, et sur les dernières études, est 20% plus cher que Paris. Donc oui, c'est quand même un budget. Et aussi, de partir en tant que touriste aux États-Unis, notamment à New York, c'est un sacré budget. Mais comme je vous dis, les salaires sont en conséquence.
Vous arrivez à vous loger à New York, dans Manhattan?
Alors, j'ai pris un appartement à Brooklyn, mais de porte à porte, c'est 20 minutes avec mon travail. C'est pas si compliqué. Je pense que c'est même moins compliqué qu'à Paris. Pour avoir vécu 10 ans à Paris, c'est beaucoup plus simple à New York. Évidemment, la colocation est favorisée de par le prix de l'immobilier.
Et ça coûte combien? J'allais vous demander, ça coûte combien une chambre dans un appartement à Brooklyn?
Une chambre dans un appartement à Brooklyn, ça coûte 1 900 $.
Ce qui fait en euros.
C'est ce qui fait en euros 1 800 €.
1 800 € quand même. Ouais.
Bon. En tout 1 800 €, et un studio coûte à peu près 3 200 $ par mois.
Ouais, donc effectivement, bon, c'est pas donné, mais c'est pas voilà. Enfin, on est dans le, j'allais dire dans la fourchette des grandes villes. Est-ce que vous avez assisté à l'éclipse en début de semaine?
Alors non, malheureusement, j'étais dans mon bureau, donc j'ai pas pu en profiter. J'étais en réunion à ce moment-là, mais j'ai eu des photos et mes collègues ont pu y participer. Donc j'étais très proche, mais je l'ai pas vu.
Et est-ce que vous avez l'intention de rentrer en France un jour, Guillaume, ou est-ce que vous allez rester vivre votre rêve américain?
J'ai l'impression qu'il n'est pas pressé, mais bon, on va voir ça.
Alors... Ouais, vous avez raison. Alors, je suis pas pressé. L'idée serait de rester encore 3 ans aux États-Unis et peut-être travailler dans un autre État, comme par exemple la Californie, et apprécier le soleil et la vibe de Los Angeles. Ouais,
traverser le continent américain, aller côté ouest. Bon, vous trouvez qu'on y mange bien quand même à New York?
J'adore manger. Alors non, c'est vrai que sur ce point-là, je suis pas vraiment épanoui. Mais il voilà. y a tellement de choses qui sont super que ça balance. Mais en fait, de par la qualité des aliments, vous pouvez même vous faites la même recette qu'à Paris, vous n'avez pas le même résultat.
Oui, quoi. C'est pas le même résultat. Ils ont pas les mêmes ingrédients. C'est ça.
Exactement.
Mais j'ai compris que pour de nombreuses autres raisons, pour l'instant, vous êtes bien chez vous à New York et merci de ce
absolument
de ce petit clin d'œil et de ce petit coup de fil. Merci beaucoup.
Merci Guillaume.
Merci Lisa Marie.
Merci Vincent
pour cette semaine.
Et oui, on se retrouve vendredi prochain.
Mais oui, parce que lundi, vous retrouvez Éric votre ami.
Brunet, absolument.
Une courte pause et puis dans un instant, les auditeurs ont la parole encore une fois sur RTL. Les auditeurs s'adressent à vous, Jean-Luc.
Les auditeurs de l'heure du crime, je les attends au 3210. Appelez-nous sur les faits divers qui vous passionnent, sur les crimes qui vous passionnent et toutes les questions. Ben, on essaiera d'y répondre ensemble. À tout de suite.
Bel après-midi.